Chapitre 10 Épanchement d'un jeu de cœur. Camilla se croyait au port. Les tempêtes et les écueils étaient passés. Un vent léger devait désormais la conduire au lieu de repos. Ce vent léger, à l'aide duquel elle croyait pouvoir se diriger à volonté, n'était autre que le souffle de la jalousie. Elle avait vu la jalousie sur tous les traits du visage d'Edgar. Elle se crut donc maîtresse du ressort secret qui devait les réunir. Cependant, ces moyens n'étaient pas sans difficulté pour elle. Le souvenir de l'expérience qu'elle avait tentée sur Sir Sedley Clarendel, le châtiment sévère qu'elle en avait reçu, le blâme, les regrets, tout lui persuada qu'il ne fallait pas renouveler cette épreuve. Elle crut devoir se borner à montrer en général plus de gaieté que de coutume, sans avoir l'air de favoriser personne et d'exciter, par l'apparence même de sa tranquillité, les inquiétudes de son amant. Elle se promit de profiter de la première occasion pour mettre en jeu son stratagème. Le jeune West Wind était plus propre que tout autre à la seconder dans son projet. Dansait-elle, il était constamment son danseur. Fallait-il se promener, il l'accompagnait assidûment. Était-elle assise, il causait avec elle. Comme elle ne s'était pas proposé de l'encourager, elle ne s'aperçut point des progrès qu'elle faisait. L'empressement du vieux West Wind ajoutait encore à celui de son fils. Enchanté de Camilla, il disait à tout le monde « Si le garçon et la fille se plaisent, ils s'épouseront. Je ne m'informe pas de ce qu'elle possède, puisqu'elle a si bonne opinion de mon fils que je ne voudrais pas la changer contre une impératrice. C'est peu de choses que l'argent quand il s'agit d'être heureux. Ainsi qu'elle aime Hal et que Hal l'aime, c'est là le principal. » Et s'ils n'ont pas assez, Hal travaillera. Il peut en acquérir. Je n'aime pas à traverser les inclinations des jeunes gens. » Cette nouvelle expérience que se proposait Camilla, fondée comme toutes les autres sur un faux raisonnement, était flatteuse dans ses espérances, pernicieuse dans ses progrès, et ne pouvait avoir qu'une funeste issue. Edgar voyait avec douleur un attachement nouveau se former et croître dans un cœur dont il se croyait banni. Dans le premier moment de ses craintes, il fut tenté d'opposer ses droits à ce nouvel usurpateur. Le docteur Marchmont s'y opposa. Il lui représenta qu'il valait mieux pour lui, puisqu'il avait entendu paisiblement Camilla renoncer à lui, s'assurer si cette nouvelle liaison avec le jeune West Wind en avait été le motif ou le résultat. Dans le premier cas, ajouta-t-il, perdez toute confiance en elle. Vous voulez que votre femme soit chaste et fidèle? Or, n'attendez ni chasteté ni fidélité d'un cœur si facile à s'enflammer, d'un cœur qui se passionne par une lueur de galanterie. Dans la dernière supposition, cherchez à découvrir si c'est par légèreté qu'elle s'engage dans ce piège, ou si ce n'est point qu'excitée par un dépit secret, elle cherche à déguiser sa propre agitation en s'efforçant d'agiter les autres. Hélas, dit Edgar dans sa profonde tristesse, elle n'est donc plus, dans l'une et l'autre supposition, cette innocente Camilla que j'adorais. Quelle funeste liaison que celle qu'elle a formée à Grove. Ah, docteur, si je viens à la perdre sans retour, et si vous trouvez qu'elle soit indigne de vous ? Edgar soupira sans répondre. Songez, mon jeune ami, quelles seraient vos souffrances ? Gardez-vous de tomber dans cette erreur si commune, de compter sur la reconnaissance de votre femme après le mariage, parce que sa fortune n'est pas égale à la vôtre. Celle qui n'a point de fortune ne vous doit pas plus que celle qui vous apporte des milliers. Car ce n'est point parce qu'elle n'a pas de fortune que vous l'épousez, c'est parce que vous avez cru trouver en elle des qualités qui vous soient garants du bonheur. Elle vous accepte avec la même espérance. Ainsi, pauvre ou riche, petit ou grand, quelles que soient les distinctions avant l'union, quand l'heure du mariage a sonné, toute différence a disparu. Pendant que Camilla suivait la nouvelle marche qu'elle s'était tracée, Eugénia se félicitait avec délices des progrès qu'elle faisait chaque jour dans les bonnes grâces de Mistress Burlington, qui, de son côté, découvrait toute l'injustice des jugements qu'on pourrait porter sur elle d'après son extérieur. Elle trouvait autant de finesse dans son goût qu'elle en avait elle-même, avec des connaissances beaucoup plus approfondies. Elle était frappée de la douceur de son caractère, de l'élévation de ses sentiments et de son extrême modestie. Elles aimaient les mêmes auteurs, elles étaient frappées des mêmes passages, elles se réunissaient toutes les matinées. et leur amitié, cimentée par ses rapports, s'accrut tellement qu'en très peu de jours, elle fut aussi vive que celle que Mrs. Bermington avait conçue pour Camilla. Eugénia voyait souvent Melmont, et quoiqu'elle n'en reçût presque à chaque fois qu'un triste salut, son air, sa démarche, son visage, tout occupait ses pensées, du moment qu'elle cessait de le voir jusqu'au lendemain. Melmont, qu'un amour malheureux pour Indiana tourmentait sans cesse, privé de tout espoir depuis la perte de sa fortune, ne s'apercevait pas qu'il fût l'objet de notre amour. Il ne songeait qu'à se donner un état qui le mit à couvert des besoins. Et ce devoir, auquel il fallait sacrifier ses penchants pour l'étude et la retraite, lui coûtait infiniment. Cependant, il était honnête avec sa tante. Lui-même la consolait dans ces moments où, ne pouvant soutenir l'idée d'avoir fait son malheur, elle regrettait amèrement d'avoir remis sa personne et sa fortune entre les mains d'un tyran avide. Pour adoucir son repentir et lui donner des consolations, Mistress Burlington invita la tante à venir demeurer chez elle. Monsieur Hulst, qui fut compris dans cette invitation, en accepta l'offre d'autant plus volontiers que cela lui sauvait de la dépense, d'ailleurs fort indifférent au plaisir que sa femme pourrait y trouver. Mistress Mitin leur céda l'appartement qu'elle s'était choisi. Mistress Hulst, quoiqu'elle ne fût pas encore assez bien portante et que de tout temps elle eût poussé l'aversion pour toute espèce de plaisir jusqu'au fanatisme, ne pouvait guère cependant éviter Eugénia, constante dans ses visites du matin. Elle souhaitait que son neveu l'épousât, car elle se flattait que, s'il était possible de le marier aussi richement que sa sœur, cela rendrait le calme à son esprit. Elle fit part de cette idée à M. Hulst, qui, désirant s'affranchir du reproche continuel d'avoir réduit Malmont à la pauvreté, en parla sérieusement au jeune homme, l'exhortant à ne point négliger une aussi belle occasion. Melmont protesta qu'il aimerait mieux travailler comme un journalier et ne vivre que de pain que de sacrifier son honneur à l'acquisition d'une fortune qu'il ne pouvait obtenir qu'en trompant une femme. M. Hull, trop endurci pour sentir ce que cette réflexion avait de piquant pour lui, tâcha d'intéresser Mistress Burlington. Mais sa manière de penser était si conforme à celle de son frère qu'elle ne voulut intervenir dans ce projet que lorsque M. Hulst lui fit des observations sur Eugénia, qui la firent balancer. Il eut bientôt remarqué dans une personne jeune et sans art les symptômes d'un penchant déclaré pour Melmont. Mistress Burlington, une fois prévenue, ne pouvait guère s'y méprendre. Mais, quoiqu'aussi sensible qu'Eugénia, le cœur occupé de ses propres sentiments, elle ne s'était point aperçue que le nom et l'abord de son frère lui fit cette impression. Elle n'y reconnut les émotions de l'amour que lorsque M. Hulst, dont les vœux rendaient le discernement plus pénétrant, l'eut éclairé. Alors elle tenta cette entreprise avec autant de délicatesse que de sensibilité, en représente à son frère toutes les perfections d'Eugénia. Elle le conjura de ne point sacrifier son repos à la plus vaine passion pour un objet, pendant qu'il en accablerait un autre du poids de son indifférence. Melmont, surpris, écoutait et soupirait. Mais passer ainsi de la beauté dans toute sa perfection à la laideur dans toute sa difformité, c'est ce qu'il assurait être impraticable. Il respectait, à la vérité, le caractère qu'elle se plaisait à lui peindre, il était sensible à la préférence dont on l'honorait, mais il serait coupable de bassesse, de duplicité, de parjure, s'il ne payait tant de bonté qu'en feignant pour elle des sentiments désavoués par son cœur. Mistress Burlington, qui ne pouvait résister à la sensibilité, cessa d'insister, mais elle versa des larmes d'admiration et d'attendrissement. Le lendemain, il arriva que Mistress Mitin ramassa sur l'escalier un papier qu'elle vit tomber de la poche d'Eugénia, comme elle tirait son mouchoir. Elle voulut le garder jusqu'à ce qu'elle en eût fait la lecture. Voilà ce qu'il contenait. « Ami d'un cœur troublé, toi qui garantis l'imagination de ses écarts, qui tempère les élans de l'espérance et l'abattement du désespoir, viens, ô raison ! Eugénia t'appelle. Viens éclairer une femme faible et suppliante, que ton flambeau, répandant devant elle sa douce et pure clarté, lui montre le chemin qui doit la conduire au calme de l'esprit, à la paix du cœur. Loin d'elle les éclairs brûlants de l'amour passionné, ils portent avec eux la surprise et l'effroi. D'où leur vient ce pouvoir magique de briller d'un perfide éclat, de charmer les yeux pour consumer le cœur, de s'insinuer pour détruire. Ah, détourne loin d'elle cette clarté si belle, mais si fausse. Et toi, Eugénia, adresse au ciel ton humble prière. Puisse l'objet sur lequel tous tes vœux appellent le bonheur, celui que tes plus tendres pensées avouent en secret, partager le calme de tes sens et la paisible sérénité de ton âme. Oh, si tu pouvais attirer à toi les chagrins qui lui sont destinés, avec quelle énergie tu braverais l'infortune, les peines, le mépris, le dédain, pour épargner un soupir à Melmont. Charmé d'avoir découvert cet épanchement poétique, Mrs. Mitin courut le porter à Mrs. Burlington. Mrs. Burlington, dont la délicatesse se serait refusée à lire une lettre, ne put voir des vers écrits de la main d'Eugénia sans être tentée d'y jeter les yeux. Mais quand elle vit au dernier le nom de Melmont écrit en toutes lettres, les larmes lui vinrent aux yeux. Elle courut à la chambre de son frère. Elle lui donna le papier sans rien dire. Il s'empressa de le lire. Surpris, troublé, confondu, ses yeux interrogeaient sa sœur, qui pleurait et gardait le silence. Il le lut une seconde fois avec beaucoup plus d'émotion. Alors, remettant le papier à sa sœur, il s'écria « Pourquoi vous a-t-elle donné cela, ma sœur, et pourquoi me le faire voir ?»« Mon frère, mon cher frère, cette fille incomparable n'a point mérité que vous preniez d'elle une pareille idée. Elle ne m'a point donné ce papier, elle ignore que je l'ai. On l'a trouvé sur l'escalier. Ah, plutôt que d'avouer si hautement la malheureuse passion qu'elle cache au fond de son cœur, elle en a fait un secret, j'en suis certaine, même à sa sœur, qu'elle chérit si tendrement. Ce n'est que sur ce papier que son cœur s'était penché. Quelle générosité d'âme, quelle délicatesse de conduite !» Melmont se sentit subjugué. Il ne pouvait manquer d'être touché de voir qu'une femme d'un esprit aussi cultivé, si naturel et si délicat, eût pour lui des sentiments si flatteurs. Il en fut pénétré de reconnaissance et le vœu généreux exprimé dans le dernier vers lui fit éprouver une douce émotion. Il prit la main de sa sœur et lui rendit le papier. Il allait lui dire « Faites ce que vous jugerez à propos ». Mais il se sentit retenu par l'idée de perdre le droit d'adorer Indiana. Après un moment de silence, il la pria de le laisser à lui-même. Melmont ne put se livrer longtemps à ses pensées. Mrs. Mitin, fière d'avoir un secret à communiquer, avait saisi cette occasion d'aller s'asseoir avec Mrs. Hulst. Elle lui confia que Miss Eugenia Tyrold était amoureuse de son neveu et qu'elle avait fait des vers pour lui. Aussitôt, on envoie chercher Melmont. On lui parle d'une manière pathétique, on l'invite avec chaleur à ne pas repousser la fortune brillante qui se présente à lui. Après un rude combat, il engage sa parole de voir Eugénia. Camilla, qui ne savait rien de toute cette affaire, reçut pendant le dîner un billet de sa sœur qui marquait un grand désordre dans ses idées. Eugénia la priait de chercher et tout de suite, d'abord dans sa chambre, puis dans celle où Miss Burlington se coiffait, dans le salon, sur l'escalier et partout, un papier écrit de sa main qu'elle avait perdu quelque part et surtout de ne pas le lire, car, disait-elle, elle s'enfermerait, elle ne remettrait jamais le pied dans le monde s'il arrivait qu'une seule syllabe en fût connue. Camilla ne put laisser un moment sa sœur dans une aussi cruelle inquiétude. Elle se leva de table pour chercher aussitôt le manuscrit. Melmont et Mrs. Burlington conjecturèrent les motifs du billet. Il souffrait beaucoup pour la timide et modeste Eugénia. Mais Mrs. Mitin ne pouvait se borner à de simples conjectures. Elle se leva donc, et courant après Camilla, elle lui dit « Ma chère Miss, est-ce que votre sœur vous aurait prié de chercher quelque chose ?» Camilla lui demanda quelle était son intention en faisant cette demande. Elle avoua qu'elle avait trouvé sur l'escalier une espèce de lettre d'amour dans laquelle Miss Eugénia avait écrit des couplets sur M. Melmont. Camilla, désolée, demanda qu'il lui fût remis. Il s'en suivit aussitôt une explication complète, et lorsqu'elle apprit, avec autant de surprise que d'intérêt, le secret de sa sœur, et la confidence qui en avait été faite à celui qui en était l'objet, elle ne put s'empêcher de respecter et d'honorer tout ce qu'elle recueillait de Mrs. Burlington sur la conduite de son frère. Le voyant également éloigné de toute vanité présomptueuse et de tout projet mercenaire, elle en conclut que le choix de sa sœur, dont elle entendait parler pour la première fois, était excellent et que, s'il pouvait se rendre maître du penchant qu'il avait eu pour Indiana, elle ne connaissait aucun homme, Edgar toujours excepté, qui pût mieux contribuer au bonheur d'une femme. Elle pria qu'on lui remît le papier et que jamais on ne fît connaître à sa sœur en quelles mains il était tombé. Cela fut convenu. Mais pendant la conférence, Mrs. Mitin avait déjà volé vers Eugénia, qui, grâce à son empressement, avait appris aussitôt que toute la maison était instruite de son attachement. La pauvre Eugénia fut accablée de douleur. Elle s'enferma dans sa chambre. À peine voulut-elle permettre d'entrer à Camilla, qui venait la consoler. Elle se cacha le visage en rougissant et protesta que de sa vie, elle ne sortirait de son appartement. L'active Mrs. Mitin ne manqua point de faire le récit de cette résolution. Melmont, douloureusement affecté de se voir entraîné avec tant de précipitation, se crut obligé, par honneur et par décence, à ne pas différer sa déclaration. Mais il ne se sentait pas le courage encore de la faire personnellement, et son esprit n'était pas assez tranquille pour la faire par écrit. Il chargea donc sa sœur des premières ouvertures. Il lui recommanda de ne point parler des vers. Il la pria seulement de l'assurer du profond respect que lui avaient inspiré ses talents et ses vertus, qu'il en sentait vivement tout le prix, qu'il se rendait justice en reconnaissant toute son infériorité, qu'il n'avait d'autre prétention que celle de chercher, par sa reconnaissance et l'intégrité de son estime, à contribuer au bonheur de sa vie, si toutefois elle lui permettait de solliciter le consentement de Sir Hugh et de M. Tyrold avant de solliciter et de mériter ses bontés. Cette commission s'accordait parfaitement avec les sentiments de Mrs. Burlington. Elle la remplit avec la délicatesse la plus tendre, après avoir eu beaucoup de peine à pénétrer jusqu'à la pauvre Eugénia. Surprise, pâle, tremblante, n'osant croire ce qu'elle entendait, elle le comprenait si peu. Ce qu'elle souhaitait le plus était si loin de son esprit que lorsque Mrs. Burlington l'embrassait de la manière la plus affectueuse, elle lui demanda si ce n'était pas d'Indiana qu'elle parlait. Mrs. Burlington, alors, crut devoir s'expliquer d'une manière positive. Elle avoua qu'Indiana avait été le premier objet que son frère eût aimé, mais elle assura que longtemps, même avant qu'il osât lui présenter son hommage, il avait pris la ferme résolution de dompter ce malheureux amour, que cette première impulsion, dictée par la prudence, était aujourd'hui le principal mobile de sa conduite, d'où résultait l'heureux choix pour lequel il sollicitait son agrément. « Et la connaissance parfaite, ajouta-t-elle, que j'ai depuis longtemps des sentiments de mon frère et de la générosité de son caractère, vous êtes un sûr garant que la femme qui recevra ses vœux le trouvera dans tous les temps de sa vie dévoué constamment à chercher les moyens de la rendre heureuse. » Eugénia se jeta dans ses bras et, la pressant contre son sein, elle pleurait, rougissait, souriait et soupirait alternativement. Un moment, elle souhaita sa fortune à Indiana. L'instant d'après, elle eût désiré d'en avoir toute la beauté pour le rendre plus heureux. Enfin, elle donna son consentement, intérieurement transportée de joie, mais se contenant avec les plus pénibles efforts. Melmont apprit cette nouvelle en poussant un grand soupir, le dernier, espérait-il, qui dut lui échapper pour Indiana. Il partit aussitôt pour Clèves et pour Etherington, également indifférent soit au refus, soit au consentement des parents d'Eugénia. Camilla donna l'après-midi tout entier à sa sœur, qui, troublée mais enchantée, la priait de ne pas laisser son secret se répandre plus loin, tant que son père et son oncle n'auraient pas donné leur consentement. Mais l'indiscrète Mrs. Mitin, ayant des rubans et des broderies dont elle voulait accommoder Indiana, ne put résister à la démangeaison de leur raconter tout, jusqu'à la découverte du manuscrit. « Pauvre petite, dit Indiana, que je la plains !» Et se glissant vers une glace, « Par tout ce que j'ai vu de M. Melmont, je doute qu'elle puisse réussir. J'ai droit d'imaginer qu'il est plus difficile. » « Voilà justement, dit Miss Margland, ce que j'ai toujours attendu. » C'est aussi tout ce qu'on doit espérer d'une de ces belles éducations que j'ai toujours méprisées du fond de mon cœur. Écrire des chansons, des vers amoureux à 15 ou 16 ans, le docteur Orborne a fait une jolie élève. Mais ce qui me console, c'est que je n'ai rien à démêler avec cette belle éducation. Grâce au ciel, je n'ai fait un vers de ma vie.